Bonsoir. Après l'année 2017 record dans l'immobilier, faut-il craindre l'arrivée de nuages? Alors vous le savez, hein, depuis le début de l'année, l'IFI a succédé à l'ISF, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. À cela, vous rajoutez les velléités de Matignon d'accroître les droits de mutation. Vous savez, les fameux frais de notaire, même si rien n'est arbitré. Pas tranché également, eh bien, les envies de Bercy de ne pas supprimer la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Il y a aussi l'idée qui plane d'un bonus malus écologique. Et puis enfin, vous rajoutez, eh bien, les taux qui pourraient remonter. Alors, est-ce la fin de l'euphorie immobilière? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, avalanche d'informations depuis quelques jours. C'est l'occasion dans les décodeurs de l'écho de faire un point complet avec les meilleurs. J'ai invité un agent immobilier très spécial. Oui, c'est le titre du livre de Bernard Cadeau, spécialiste du logement et de l'immobilier, l'ancien président du réseau Orpi. Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Maître Thierry Delesalle, notaire à Paris, spécialiste de l'immobilier. Sandrine Alonier, directrice des relations banques de vousfinancier.com, et Charles-Marie Jotras, président de Daniel Féo, spécialiste d'immobilier de luxe. Alors, tiens, on va commencer avec vous, Bernard Cadeau, pour démarrer, comme on se voit souvent dans les décodeurs de l'écho. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, donc fin mai 2018, quel est l'état du marché immobilier? Comment se porte-t-il?
On peut pas dire qu'il se porte mal, mais en même temps, première notion, il y a moins de biens à vendre, ce qui est de la conséquence logique, je dirais, des années qui ont précédé. Il y a eu beaucoup de ventes, donc moins de stocks, moins de biens à vendre. Donc une tension claire au niveau des prix. Et c'est sans doute le premier signal qu'il va falloir observer tout au long de cette année-ci, parce que il y a toujours beaucoup de demandes. On est toujours dans une situation où il n'y a pas suffisamment d'offres et beaucoup de demandes. Et s'il n'y a pas beaucoup de biens à vendre, il y a clairement un risque de pression sur les prix, plus tout l'environnement fiscal qu'on manquera pas d'évoquer tout à l'heure.
Ah bah ça, je l'ai déjà bien annoncé, justement, ça va nous occuper un long moment. Sandrine Alonier, on a connu une année 2017 record. On est sur la même tendance, on parle d'accalmie, ça reste bon quand même?
Oui, on est vraiment sur une accalmie, un atterrissage du marché. Le premier trimestre a vraiment pas été bon, hein. Tous les professionnels s'en sont plaints. On était plutôt sur un marché de l'ordre de moins 10, moins 20% selon les zones. Là, on a vu quand même une reprise en avril ou en mai. Alors nous, on est un peu en avance, si je puis dire, puisqu'on observe les demandes de prêts. Donc c'est bien avant, c'est 3 mois avant que les transactions se signent. Mais je dirais que l'année a vraiment mis du temps à démarrer. On a senti un attentisme qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs mois.
Qui dit ralentissement, est-ce que ça signifie un assagissement des prix ou pas? En parlant un petit peu des prix, Maître Delesalle.
Oui, j'ai envie de dire que c'était un peu la météo. Vous avez vu qu'il faisait pas très beau au début de l'année, mais c'était ça, hein, c'est très souvent ça. Oui. L'immobilier suit un peu le climat. Et là, aujourd'hui, c'est le printemps, et là, c'est l'euphorie en ce moment, ça marche très très fort. Mais alors, les prix, forcément, il y a une incidence sur les prix. Mais ça dépend, comme le disait Bernard Cadeau, ça dépend un petit peu des secteurs. Et quand vous êtes dans des marchés tendus, dans des marchés voire de pénurie, comme à Paris, là, forcément, les prix montent. Et d'autres secteurs où il n'y a pas de pénurie ou moins de pénurie, les prix restent beaucoup plus sages. Et quelquefois, même en banlieue parisienne.
Ah oui, oui, d'accord. Et vous avez noté des tendances particulières sur la banlieue parisienne?
Par exemple, sur les appartements en grande couronne, là, il n'y a pas trop de tension. Ouais. Alors c'est vrai que traditionnellement, quand on va en grande couronne, on veut une maison.
Plutôt.
Donc il y a moins de demandes sur l'appartement. Et donc là, c'est quasi stable. On est à des petites augmentations de 2-3% par an. Mais c'est quand même ça. Il y a des augmentations, mais pas comme à Paris en tout cas.
Henri Buzy-Cazot, Paris. Et puis n'oublions pas aussi que les différentes grandes métropoles françaises aussi.
Oui, mais il faut parler aussi de l'ambiance politique, économique et sociale. 2017 a été marqué sûrement par l'incarnation d'un espoir, un nouveau personnel politique qui est arrivé.
Avec le président de la République, quoi.
Président de la République, et pas seulement. Fin d'année, on commence à avoir un certain nombre de messages, et au demeurant, négatifs sur l'immobilier. Si on les globalise, on a le sentiment que l'immobilier n'est pas véritablement aimé de l'exécutif.
On en avait déjà parlé. On avait même posé la question. Macron aime-t-il l'immobilier?
On commence à être dans le dur.
Ça se confirme ou pas?
Oui, ça se confirme. Ça se confirme, bien sûr. Vous avez évoqué tout à l'heure en introduction des mauvaises nouvelles. Confirmées ou pas. En tout cas, des mauvais messages. Et puis, 2018, soyons clairs, dégradation de l'ambiance sociale. Le climat social est mauvais. Et ça, c'est quand même un déterminant très très fort du marché de l'immobilier. Ça a toujours été le cas. Un climat économique, là, une annonce sur le chômage, on pensait que ça irait mieux, que ça ne va. Voilà, donc ça va peser aussi, au-delà de ce qui est sectoriel, c'est-à-dire les taux d'intérêt ou les prix.
Alors, on fera le bilan à la fin de l'émission, parce que là, tout ce qu'on annonce, là, au fur et à mesure, en matière de fiscalité, de climat social, ça n'a pas l'air très très enthousiaste. Et le marché de l'immobilier de luxe, Charles-Marie Jotras, vous à la tête de Daniel Féau, comment il se porte hein?
Mais écoutez, il se porte très bien. Il y a eu un effet, si on fait le bilan de la dernière année, il y a évidemment un effet taux d'intérêt, mais il y a eu un effet, l'effet le plus important, ça a été l'effet Macron, très clairement. On parle de l'effet Brexit, mais c'est vrai que pour nous à Paris, ça fait 36 ans que nous voyions des gens partir à l'étranger, et pour la première fois depuis 36 ans, donc la création de l'IGF qui est devenue l'ISF, depuis un an, nous n'observons plus dans notre clientèle de gens qui partent à l'étranger. Et pour la première fois depuis 36 ans, nous voyons des Français de l'étranger qui reviennent. Donc ça mérite quand même d'être dit. Alors effectivement, ça ne fait qu'accroître la pression sur le marché parisien, notamment dans les beaux quartiers, où là on a un déséquilibre offre-demande qui est très important. Et donc le marché est très dynamique, très fluide, notamment sur l'appartement, on va dire l'appartement familial bourgeois qui est très demandé et donc pour lequel il y a un déséquilibre considérable entre ce qui est offert et ce qui est demandé.
On est quoi sur du 150 mètres carrés à peu près?
Ça c'est le segment le plus tendu, ouais. 150 mètres carrés, séjour double, trois chambres, l'haussmannien classique de 150 mètres carrés, celui-là c'est l'appartement que bon. Et dernière chose.
Depuis ça, prix d'entrée combien là systématiquement là on est.
Ah, c'est difficile de parler de prix d'entrée, je répugne toujours parce que mais c'est l'appartement qui a le plus monté effectivement au cours des 18 derniers mois des deux. Et faut pas oublier qu'à Paris, on ne construit plus. Et on ne construira plus de logements grâce à l'enfer est pavé de bonnes intentions. La décennie des années 90, dans la moitié de Paris bourgeoise, on construisait l'ensemble de la profession de promotion construisait environ 1000 logements par an dans cette moitié de Paris. Depuis la loi SRU qui oblige donc à donner, lorsqu'un promoteur construit un immeuble, à rétrocéder 25 ou 30% de l'immeuble au logement social. Il n'y a quasiment plus. Quand je dis quasiment, c'est on compte les opérations, quoi. Et donc, on ne construit plus de logements. Donc, la pénurie, a priori, je vois pas comment elle pourrait diminuer.
Sandrine Alonier.
Oui, c'est intéressant parce qu'en France, il y a vraiment plusieurs marchés. Donc là, on parle de l'immobilier de luxe. Mais il faut pas oublier que en ce début d'année, on a subi de plein fouet la baisse des aides pour les primo-accédants. On a eu la suppression des APL accession. Ouais. On a eu également le prêt à taux zéro qui a été revu à la baisse. Et on l'a senti parce que les primo-accédants ont été moins présents. Et aujourd'hui, ce qui les soutient, c'est vraiment le niveau des taux. Donc là, on a eu ce début d'année un peu compliqué. On avait l'impression de ressortir un peu la tête de l'eau avec des taux très bas, quasiment proches des records. Et là, on a à nouveau des mauvaises nouvelles qui tombent. Donc globalement, ça reste assez déprimant.
Parlons des taux. Vous, Sandrine Alonier, directrice des relations banques, vous financez.com. On dit toujours dans une période de crédit très bon marché, justement, à quel taux on peut emprunter aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, on a des taux qui sont quasiment revenus au niveau les plus bas de 2016, parce que justement, les banques veulent booster la demande, veulent soutenir le marché.
Ça veut dire qu'ils ont à nouveau baissé les taux?
Ils ont à nouveau baissé en ce début d'année, de l'ordre de 0,15%. Donc là, on emprunte en moyenne à 1,40% sur 15 ans, 1,55% sur 20 ans et 1,75% sur 25 ans. Mais on arrive à avoir encore des taux proches de 1,30% sur 20 ans. C'est vraiment des taux records.
Et les durées, Picasso et Thierry de la Salle.
Et les durées ont tendance à se rallonger, parce que tout cela est nécessaire pour absorber des prix, on l'a dit.
Qui est grave, bien sûr.
Exactement. Et une désolvabilisation du fait des aides moindres.
On a les banques qui sont prêtes à accompagner, si je puis dire, la demande et le marché avec des durées de prêt qui se rallongent, avec un peu moins d'apport demandé, mais bon, ce sera peut-être pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins.
Quand vous dites, Henri, la durée des prêts s'allonge, c'est-à-dire quoi? On peut monter jusqu'à combien là aujourd'hui?
Alors bon, je ne vais pas me substituer à Sandrine, mais on voit quelques rares prêteurs qui vont jusqu'à 30 ans. J'ai bien entendu que certains étaient allés au-delà, mais on est en tout cas sur 20-25 ans. Ouais. 20-25 ans, 25 ans devient courant, parce qu'autrement, sans cela et sans des taux très bas, on ne passe pas dans les grandes villes.
Ouais. Maître de Le Salle, Thierry de Le Salle.
Oui, c'est vrai que de toute façon, tant que ce carburant n'est pas cher, aujourd'hui, le volume est là. Alors moi, j'avais envie de vous parler aussi de quelque chose qu'on a du mal à analyser, mais c'est le rattrapage, en fait un effet de rattrapage, parce qu'il y a eu des mauvaises années quand même en immobilier, où il y avait peu de volume. Ouais. On a un peu tendance à l'oublier. Hein. Alors on s'attendait à ce que les années d'élection, tout le monde dit les années d'élection, c'est une catastrophe pour l'immobilier. Au contraire, c'était une année record. Pourquoi? Parce que justement, c'était un effet de rattrapage, après deux ou trois années, je dirais pas de disette, mais de mauvais volume. Et pourquoi? Parce que à cette époque-là, les Français avaient peur, ils n'avaient pas confiance, les taux commençaient à baisser, mais bon, il n'y avait pas encore le signal. Et résultat, les gens attendaient. Et depuis, en fait, peut-être maintenant, ça fait trois ans, depuis 2015, mai 2015, il y a eu un déclic et les gens ont eu confiance. Et du coup, on dit, on va réadapter notre logement. Alors c'est pas forcément des primo-accédants, c'est des gens qui ne déséquilibrent pas le marché parce qu'ils sont et vendeurs et acquéreurs, ce qui crée le volume. Et cet effet de rattrapage, à mon sens, il n'est pas encore terminé. Parce que deux ou trois ans comme ça de disette font que ça alimente la demande. Il y a encore des gens aujourd'hui qui réadaptent leur logement en une pièce de moins ou une pièce de plus en fonction.
Juste, Sandrine Alonier, Bernard Cadeau, il y a une chance que les taux baissent encore davantage ou pas, là, au moment où on se parle?
Alors, les banques s'adaptent un petit peu à la demande, si je puis dire, parce que elles ont des objectifs de production de crédit. Il y a une très forte concurrence entre les banques. Et en fait, si le niveau de demande n'est pas tout à fait à la hauteur, elles ont des objectifs à faire. Ah. Et à mon avis, elles pourraient encore ajuster un peu leur taux jusqu'à l'automne. Donc, du point de vue des taux, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Mais ça va peut-être le devenir en 2019, si la politique de la Banque Centrale Européenne évolue, c'est ce qui est prévu.
On va attendre la fin de l'année 2018.
Et du coup, ça va vraiment rester un signal qu'il va falloir qu'on ait tous dans le viseur, parce que de là pourra dépendre l'avenir du marché.
Bernard Cadeau.
Oui, il y a ce côté amortisseur des taux qui sont historiquement bas. Il faut surtout pas que ça remonte brutalement. Ils ont baissé, c'est vrai. Si ça remonte un tout petit peu, on peut espérer qu'il y aura pas d'incidence majeure sur le marché. Ce qui serait vraiment le pire des scénarios, ça serait une remontée brutale de ces taux-là. Bon, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là. Bon, maintenant, on va sans doute dépasser la moyenne de 20 ans. Puisqu'on était un peu en deçà des 20 ans sur la durée des crédits. À cause de ce qui vient d'être annoncé et démontré. Il faut juste se dire qu'on est en train de passer petit à petit dans une autre notion qui est plus la notion de l'usage, c'est-à-dire qu'on considère que on va habiter un logement pendant 7 à 10 ans et on aura un montant mensuel à débourser pour habiter ce logement sans vraiment le qualifier, parce que si on emprunte sur 30 ans, le taux d'amortissement, il va être un peu plus faible que sur 20 ans.
D'ailleurs, votre ancien employeur, Orpi, qui a lancé une grande enquête justement auprès de ses agents immobiliers pour détecter les nouveaux comportements en matière d'investissement immobilier. Pourquoi se lance-t-on dans l'immobilier? Un tiers, 37% exactement, des clients investisseurs sont eux-mêmes locataires de leur logement. Et pour les deux tiers, ça permet de s'assurer un revenu ou de se constituer un patrimoine tout en restant mobile.
Oui, parce que être propriétaire d'un bien immobilier, ça a du sens en France. Et vous avez raison de le souligner, de nombreux propriétaires ou investisseurs dans l'immobilier sont locataires de leur résidence principale. Pour différentes raisons. Parce que pour eux, et quand ils pensent à leur avenir, être propriétaire d'un bien immobilier, ça fait du sens.
Allez, encore un mot avant qu'on voit justement la question des frais de notaire. Oh là là, non, c'est pas les frais de notaire, les droits de
mutation.
Pardon, maître de Le Salle. Oui, Henri.
Pour anticiper sur les mois qui viennent, il y a aussi un autre problème, c'est le manque de clarté des messages relatifs à la fiscalité.
Voilà. Parce que vous avez promis un cadre stable quand même en matière de fiscalité.
On nous avait promis un cadre stable, et puis au moins on pouvait s'attendre à des messages clairs. On a un président de la République qui avait été clair sur l'essentiel pendant la campagne. Bon, aujourd'hui, on assiste à une cacophonie que je trouve historique.
Oui. Bercy, Matignon, Bercy.
Voilà. La fiscalité locale, locale nationale, parce que ce qu'on prend en collectivité, il faut leur rendre par le national. Enfin, moi, je ne comprends plus rien, c'est pas faute d'essayer. Et je pense que ça, c'est un ennemi du marché immobilier. Les ménages, s'ils se demandent s'ils vont ou pas payer telle taxe, si une autre va venir la compenser ou être alourdie,
ils ne s'engagent pas.
Disent halte là. Voilà. Ouais. En tout cas, ils vont attendre 6 mois, 8 mois sans problème.
Bernard, encore un mot. Bernard Cadeau.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Henri. En ce moment, on regarde les nouveaux mots et les nouveaux noms qui apparaissent dans le dictionnaire. Mmh. Il y en a un dont il va falloir revoir la définition, c'est le mot cohérence. Parce que moi, je m'y retrouve pas. Je sais pas où est la cohérence. On parle de mobilité et on évoque une augmentation possible ou probable des fameux DMTO, des droits de mutation.
DMTO.
Or, on sait que c'est le frein principal à la mobilité, ces fameux DMTO, etc. Ça. Et
les droits de mutation
antifraudeux. Donc, où est la cohérence, moi je me pose la question.
La France championne en matière de fiscalité des transactions immobilières. Vrai, faux, c'est ce qu'on nous dit. Il paraît qu'elle pèse de 2 à 5 ou 6 fois plus que dans les autres pays de l'Union européenne.
Oui,
Henri.
Mauvais élève, oui. Mauvais élève, bien sûr.
Charles Marie Jolras, Daniel Pérou.
Et là, on peut dire qu'il y a une certaine cohérence, puisque les mesures qui sont prises. Bon. Et il y a quand même une chose que j'aime bien relever, c'est que, en tous les cas, l'investissement immobilier, il est interdit aux investisseurs qui se situerait, par exemple, dans les tranches hautes de l'IR et de l'ISF devenu IFI. Je vais vous faire un calcul très simple. À Paris, un bon investissement immobilier, pas dans du super luxe, ça vous rapporte 3% quand vous avez payé la taxe foncière et les charges. Bon, 3%, c'est pas mal. Si vous êtes dans les tranches hautes, vous payez, sur ces 3%, vous payez 66,2%. Je vais vous faire le calcul, c'est 45, taux marginal, plus les 4 de la contribution sur les revenus, que tout le monde oublie toujours, ça fait 49, plus 17,2 de CSG-CRDS. D'accord. Ça fait 66,2%. Ouais. C'est-à-dire les deux tiers.
Vous retirez les deux tiers de
3%. Mmh. Il vous reste 1. Et le taux marginal d'IFI, c'est 1,5. Donc vous êtes à moins 0,5. Donc c'est-à-dire que vous êtes à entre 115 et 120% d'impôts quand vous êtes dans... Donc c'est-à-dire que c'est un investissement qui est interdit aux gens, aux gros investisseurs, on va dire. Donc, mais en même temps, bon, ils sont guidés vers, toujours la même chose, vers les valeurs mobilières, l'entreprise, qui est peut-être très bien, mais... Je pense que c'est une mesure qui n'est pas neutre. Une situation qui n'est pas neutre.
Détaillons, en effet, c'était l'info de la fin de la semaine, juste avant le long week-end de la Pentecôte. La question, donc, se posait, les droits de mutation reversés au département vont-ils être déplafonnés, à savoir, donc, passeraient de 4,5 à 4,7%. En clair, les fameux frais de notaire, comme on les appelle abusivement. Oui, juste, j'ouvre une parenthèse, Thierry Delessalle, ça va nous revenir, ça va nous échapper, c'est... frais de notaire, qu'on appelle en fait les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, on paye quoi 7 à 9% du prix du bien à peu près, bon allez, une moyenne de 8%,
oui.
Qui sont en réalité, c'est beaucoup de taxes, à 3 quarts voire plus de taxes.
Ah c'est plus de 80%.
Plus de 80%.
Et mais tout le monde adore parler de frais de notaire.
Bah oui, et les notaires
les
en fait,
publics, quoi, les premiers,
1,5, 2% en fait
C'est 0,814 sur une vente classique,
ouais.
Donc moins de 1%.
Le notaire, le percepteur.
Alors après, il y a des
donc
sur
par exemple
débours,
un appartement à 400 000 euros, ça fait voilà des frais vaguement de 32 000 euros, hein, c'est ça.
Le honoraire, les moluments, tout le confondu, ça va sur 400 000, il va le notaire qui se partage avec l'autre notaire, parce qu'il y a souvent deux.
Oui,
ça va être du 4 500 euros.
Ouais, tout
4 500
voilà,
euros
bon,
à peu près.
C'est parti. Alors
et
donc,
tout le reste est pour l'État. Mais justement, pourquoi l'État parle tout le temps de frais de notaire?
Et les collectivités.
Justement. Pardon?
Et les collectivités.
D'où
les départements, bien sûr.
Ça arrange bien, justement, de montrer que c'est les...
De noyer le poisson, voilà. Bon, et alors, les DMTO, voilà, les droits de mutation à titre onéreux, ils vont augmenter. Alors, Matignon l'aurait annoncé au département. Bruno Le Maire, bon, il dit, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Il l'a dit, il considère que le déplafonnement des droits de mutation ne constituait pas une bonne solution. Où est-ce qu'on en est exactement? Tiens, Henri Buzicazo, hausse ou pas des droits de mutation?
Bon, ben le sujet, il faut le reprendre du début. C'est cette suppression annoncée de la taxe d'habitation. La plaisanterie coûte aux collectivités locales, qui étaient destinataires, les communes, pour qui ça constituait 37% des ressources, 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros. Alors, ça a sûrement contribué à faire élire le président Macron, tout ça est bien, le financement n'était pas du tout prévu, on s'en aperçoit. Aujourd'hui, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. On dit les départements pourraient donner le fruit de la taxe foncière aux communes. On voit bien qu'il y a un problème, faut pas avoir fait une grande école d'administration. Et donc derrière, on dit bah alors les départements, on va leur donner un petit peu plus d'argent sur les droits de mutation à titre onéreux
pour financer le social,
dont ils captent l'essentiel voilà, pour financer notamment le social.
Ça représenterait 500 millions.
Ça représenterait 500 millions.
Donc, peu.
Et puis on dit mais il y aura peut-être un petit morceau de TVA qui pourrait aller aux communes, peut-être un petit morceau d'impôt sur le revenu. Donc tout ça est un flou total. Il y a bel et bien une impasse de l'ordre de 26 milliards d'euros. C'est ce qui fait d'ailleurs que on veut pas aller jusqu'à exonérer les résidences secondaires parce que ça fait 2 milliards et demi.
Évidemment, voilà. Ça ferait 2 milliards et demi de plus.
Voilà. Donc mais sur les droits de mutation, ce qu'il faut dire, c'est que une augmentation est impossible. Il a bel et bien une élasticité prix des droits de mutation et nombre de mutations. On ne peut pas dire que ce soit indolore. C'est l'histoire des 5 euros d'APL. Non, 0,2 points de plus, ça n'est pas rien pour l'essentiel des ménages. Voilà.
D'ailleurs, Sandrine Alonier, donc vous avez fait les calculs pour vous financer .com, hein, montrer clairement que ça pourrait casser la dynamique. Quelle est l'estimation de l'impact de la hausse des droits de mutation?
C'est vrai que 0,02%, c'est rien. C'est que 400 euros entre 2018 oui. et 2019. Mmh. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, les droits de mutation avaient déjà augmenté. Mmh. On était déjà passé de 3,8 à 4,5. Et du coup, l'augmentation, finalement, depuis 2014, elle est de 1 800 euros pour un bien à 200 000 euros. Or, ces frais de notaire, ces droits de mutation, doivent être financés par apport. Donc, c'est-à-dire qu'on a des primo-accédants qui sont obligés d'avoir plus d'épargne. Ils doivent avoir 1 800 euros de plus qui a 4 ans pour devenir propriétaire. Donc ça, et en plus ils ont moins de PTZ, ils ont plus les APL. À un moment, on a l'impression qu'ils sont tapés de toutes parts. Or, aujourd'hui, une façon de se constituer une retraite, c'est quand même d'investir dans sa résidence principale. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque vraiment de cohérence. On se demande où ils veulent aller. Restons tous locataires. Bon, voilà. Il faut bien que certains achètent pour que d'autres soient locataires, pour que d'autres puissent louer. Donc aujourd'hui, voilà, cette mesure, elle est incompréhensible et elle risque d'être très mal accueillie par l'opinion et par les futurs propriétaires, parce qu'aujourd'hui, ce manque d'encouragement à l'achat dans un marché qui a été perfusé pendant des années, je pense qu'il ne faut pas tout arrêter d'un coup.
Alors Bernard Cadot, Thierry Delessalle, notaire.
Rapidement,
Bernard Cadot.
Non seulement il ne faut pas qu'ils augmentent, mais il faudrait qu'ils puissent diminuer.
Supprimer éventuellement.
Pas forcément supprimer, mais en tout cas diminuer de manière significative, parce que toutes les études démontrent que c'est un frein majeur, ça peut fluidifier le marché. À la mobilité, on en est certain, et puis aussi la fluidité de ce marché.
C'est l'OCDE qui expliquait dans une récente étude qu'une hausse d'un point, donc de ces DMTO, hein, réduit de 4,5% la mobilité des résidents. Et au moment, justement, on cherche à faciliter la mobilité des salariés.
Oui, parce que c'est vrai que les Français ne sont pas très mobiles.
Pour lutter contre le chômage, tout ça est contre-productif. Thierry Delessalle, les départements peuvent être contents, bien sûr. Vous dites attention de ne pas alourdir et de ne pas casser cette dynamique.
Oui, parce que si on parlait de la France qui championne en l'occurrence, quand on voit à l'inverse, le pays où vous payez le moins cher, c'est l'Angleterre.
Oui.
En Grande-Bretagne, vous payez 1% de droit et 1% pour le solliciteur. Donc vous voyez, c'est kiff-kiff par rapport au notaire, mais par contre, il n'y a qu'un pour cent de droit. Et à population égale, on est à 1,5 million de transactions. Donc on a la démonstration dans un pays étranger que payer moins de droits, ça facilite la fluidité. Donc si tant est qu'il y avait besoin de le prouver.
Vous nous l'avez dit que les droits de mutation à titre onéreux, c'est un blocage, un frein à la fluidité du marché. Pourquoi ne pas les supprimer carrément justement? Qu'est-ce qui empêche Henri Buzy-Cazaux, Charles-Marie Jottras? Bon,
c'est un impôt imbécile. Pour cette raison-là aussi, l'augmenter va faire que la coupe sera pleine. Cet impôt n'est pas compris. Il ne se justifie pas. Ça, c'est sa première chose. Une autre mauvaise idée, d'ailleurs, dans le florilège, c'est de faire dépendre les droits de mutation de la vertu énergétique. Là aussi, on va sanctionner le marché et ça va être la double peine. Celui qui achète un logement qui n'est pas au top en matière de performance énergétique, eh bien, on va le taxer un petit peu plus.
On reparlera d'une bonne semaine écologique tout à l'heure.
Mais très
aussi,
clairement,
c'est aussi une autre ombre.
Il avait été dit par le candidat Macron et par d'autres d'ailleurs qu'il fallait une remise à plat de la fiscalité, c'est l'expression consacrée, et que notamment ces droits de mutation étaient archaïques et qu'il fallait penser à autre chose. Que ne le fait-on aujourd'hui? On fait l'inverse. On les maintient et on les augmente.
Charles-Marie Jottras, à la tête de Daniel Féau. suppression ou pas, c'est envisageable?
Écoutez, non,
c'est
moi je personnellement, bon, sur la fiscalité, il y a beaucoup de choses à dire, mais honnêtement, suppression des droits de mutation, j'aimerais bien, mais enfin, faut pas rêver, ça rapporte, les communes en ont absolument besoin, regardez ce que la mairie de Paris tire de ses droits de mutation.
11,5 milliards d'euros.
Pourrait trouver d'autres sources de revenus, donc personnellement, je resterai.
Je
parlais de l'Angleterre, mais quand on regarde ce qui se passe en Allemagne ou aux États-Unis, effectivement, il y a pas des droits de mutation sont beaucoup plus faibles. Ouais. En revanche, il faut bien que les communes vivent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les taxes foncières qui sont le double ou le triple. Bon. Qu'en France.
Bon, on va continuer. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on parlera aussi de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On parlera d'un éventuel bonus-malus écologique sur les biens immobiliers. Voilà, on n'arrive pas toujours à suivre. Tiens, Sandrine, aussi, il faudra nous parler aussi du prélèvement à la source. Il y aura peut-être aussi un effet vicié, justement, de ce prélèvement à la source sur le marché de l'immobilier. Vous nous raconterez ça. On revient vite avec nos décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business, à la télé et à la radio.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, est-ce la fin de l'euphorie immobilière? Oui, compte tenu de tous les nuages qui apparaissent dans le ciel et notamment eh bien toutes ces velléités de taxer et de taxer et de taxer justement. Oui, nos décodeurs de l'écho tout à l'heure déploraient ce manque de cohérence. Ils sont bouillants ce soir, je les aime comme ça justement. Tiens, Charles-Marie Jotra, juste un mot au présent de Daniel Féo, spécialiste de l'immobilier de luxe. Vous évoquiez justement le retour des Français donc eh bien dans la capitale hein, après 32 ans après
36
le
ans.
De 36 ans de l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, quand François Mitterrand avait été élu, voilà, c'était une nouvelle. Le Brexit, juste un mot, est-ce que vous voyez apparaître des Britanniques en France ou des expatriés, quels qu'ils soient justement, qui étaient à Londres, à la City, et puis qui décident de miser sur Paris au cas où justement?
Tout à fait. Nous voyons revenir un certain nombre de Français qui étaient à Londres pour différentes raisons. D'abord, le changement de régime de la fiscalité du capital, hein, qui a coûté quand même un certain nombre de centaines de milliards d'euros à la France, cet exil. Mais c'est vrai qu'on voit des Français qui reviennent de différentes villes, de Bruxelles, de Suisse, de l'Extrême-Orient.
Ça, c'est pour des raisons fiscales,
et de Londres pour différentes raisons qui se sont cumulées. Le retour des Français, le Brexit, effectivement, on a pas mal de clients dont les départements qui sont dans le milieu financier ou bancaire est relocalisé à Paris. Nous observons ça très clairement. Bon, c'est pas des dizaines de milliers de personnes, hein, mais on en voit. Et il y a aussi la fin du régime des non-dom à Londres, qui fait revenir non pas des Français pour le coup, mais des étrangers. On a des Grecs qui quittent Londres pour venir à Paris. Donc il y a une certaine attractivité fiscale
Jusqu'à un certain point, puisque voilà, voilà justement, on évoquait donc la hausse. Possible, même si rien n'est arbitré. Hein. Je le disais, Bruno Le Maire, pour l'instant, était plutôt réservé sur les velléités de Matignon d'accroître les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, entre guillemets, bien entendu. Et puis la taxe d'habitation, car tout ça est lié. Emmanuel Macron, vous savez, veut supprimer cette taxe d'habitation d'ici 2021. Que disait Bruno Le Maire dimanche dernier? Il se disait favorable au maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Ça ne me paraît pas juste d'expliquer qu'on va la supprimer aussi sur la résidence secondaire, disait-il. Bon, en même temps, est-ce que c'est pas un peu réducteur de dire vous avez une résidence secondaire, donc payez, vous avez les moyens de payer, vous payez. Tiens, Charles-Marie Jotra, Bernard Cadeau.
Non, mais c'est vrai. On croit que parce qu'on est propriétaire d'une résidence secondaire,
on est riche, donc
on est riche.
Voilà.
Et donc on a les moyens de payer. De très nombreux propriétaires de résidences secondaires sont locataires de leur résidence principale et ils achètent justement parce que ils ont envie d'avoir un bien immobilier. Je vais pas citer de département, je ne veux froisser personne, mais il y a de très belles régions de France où une résidence secondaire vaut moins de 100 000 euros.
Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est pas parce qu'on est locataire de sa résidence principale et propriétaire de sa résidence secondaire à moins de 100 000 euros qu'on est quelqu'un de riche.
Riche, ouais.
Donc on entretient une espèce de climat et d'idées reçues contre lequel je pense il faut.
Bruno Le Maire, il aurait dû s'élever. Se faire ce jour-là, quoi, finalement. Plutôt...
Bah, je me permettrai pas de dire ça, mais bon. en tout état de cause, il y a cette réalité-là. Voilà. Vous savez qu'il y a pas si longtemps que ça. Un propriétaire sur deux de résidence secondaire était locataire de sa résidence principale.
Donc... Henri Buzicazo à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers.
Bruno Le Maire a justifié qu'on n'aille pas jusqu'à se priver de 2,5 milliards de plus de rentrées fiscales. Point barre. Voilà. Voilà il a été dit par le président de la République, cet impôt n'est pas un bon impôt. On commence par l'enlever à 80% des Français. Très vite après, il dit, mais non, tous les Français. Et puis maintenant, on voit bien qu'on retient un petit peu les chevaux parce que tout calcul fait, il manque.
Ça représente quoi le marché des résidences secondaires? Vous nous avez dit, bon, en matière de taxes, ça représente 2,5 milliards à peu près sur 25-26 milliards d'euros.
C'est de l'ordre de 10% des transactions annuelles. Voilà. Mais je souscris à ce que dit Bernard Cadeau.
Un agent immobilier.
Charles-Marie Jotras le sait très bien. Oui, il y a des très grandes, des très belles et très luxueuses résidences secondaires. L'essentiel, c'est pas ça, c'est des maisons des maisons en campagne qu'il faut rénover, donc c'est pas du tout ces biens de prestige. Le propos de Bruno Le Maire est une justification a posteriori, c'est tout.
Maître Thierry de Le Salle, notaire à Paris, oui, spécialiste de l'immobilier.
Je rebondis sur ce que disait Bernard Cadeau, c'est les pouvoirs publics d'ailleurs en sont tellement conscients du fait que vous avez beaucoup de Français qui sont locataires de leur résidence principale et propriétaires de leur résidence secondaire, c'est qu'ils ont créé une exonération de plus-value.
Ouais.
Qui n'est pas tellement connue, mais qui permet justement, parce que les pouvoirs publics ont été conscients de ça, je n'ai pas les moyens de m'acheter ma résidence principale. En revanche, j'ai les moyens de me payer une résidence secondaire. Et le jour où, ça y est, la retraite, ça va un petit peu mieux, je peux me payer ma résidence principale, je vais vendre ma résidence secondaire, et celle-là, elle sera exonérée de plus-value.
Alors.
Elle a voulu être supprimée l'année dernière, et là, c'est des députés qui sont remontés à l'assaut en disant, attendez, c'est pas normal, là, vous êtes en train de supprimer une exonération qui est très sociale. Là, c'est pas un cadeau aux riches.
Sandrine Alonier avec nous, c'est la directrice des relations banques de vousfinancer.com.
Moi, ce que je trouve très préoccupant, c'est qu'il n'y a pas de lisibilité dans les actions du gouvernement et du coup, il n'y a pas de visibilité pour les investisseurs. Et aujourd'hui, c'est ça qui risque de bloquer le marché. Et je pense que c'est ce qui a aussi provoqué en début d'année cet attentisme. C'est qu'aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, on a besoin d'y voir clair, de savoir que la fiscalité ne sera pas confiscatoire.
Les Français vont se décourager à investir dans l'immobilier avec tout ça.
Les Français vont se décourager et finalement, où les Français vont mettre leur argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur les comptes courants parce que les gens ne savent plus où investir. Ne savent plus où placer leur argent. Et c'est ce mouvement de un pas en avant, un pas en arrière. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Par exemple, sur le prêt à taux zéro, il va être maintenu en 2019 dans le neuf, mais seulement à 20% contre 40% dans l'ancien. Mais ça va changer encore en 2020. Donc aujourd'hui, on n'a pas de visibilité à un ou deux ans. C'est vraiment ça qui est préoccupant.
Henri Buzicazo, toujours.
Il porte à croire que le président Macron veut une France de locataires. En oubliant d'ailleurs qu'il faut des propriétaires derrière pour que le locataire le soit. Mais je crois vraiment qu'il y a le parti pris de dire que la propriété immobilière de la résidence principale n'est pas la priorité. On est à rebours de ce qu'on entendait par le passé.
Et Charles-Marie Jotras, à la tête de Daniel Féau, la ville de Paris, elle a aussi apparemment de très bonnes idées en la matière. Hein. Racontez-nous ce que vous avez pu lire.
Ouais, écoutez, non,
je vous donne ça. Voilà. Une déclaration.
Oui, il faut d'après
d'un adjoint au maire.
D'un adjoint, oui, enfin d'un conseiller à la mairie de Paris. Je dis, il se dit prêt à frapper fort. Il faut que le niveau de la taxe soit suffisamment dissuasif. On parle de la taxe sur les résidences. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Avec la surtaxe de 60% qui représente une moyenne de une majoration de 600 euros par an pour une résidence secondaire, il faudrait un coût quatre fois plus élevé pour convaincre quelqu'un qui vient quelques semaines par an plutôt d'aller à l'hôtel. Selon lui, avec une taxe réellement incitative, on pourrait multiplier par deux le nombre de logements mis en vente à Paris et cet afflux sur le marché pourrait faire baisser les prix de 20%. Quand on lit ça, on reste sans pouvoir.
Bernard Cadeau, commentaire justement sur cette déclaration de ce conseiller de Madame Hidalgo.
Je crois que c'est ubuesque parce que c'est une vision purement comptable et vraiment hypothétique de ce qu'est un marché.
Non, mais...
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis comme le disait Henri Buzicazo à l'instant, pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. Parce qu'on peut pas dissuader tout le monde d'être propriétaire et en même temps prétendre augmenter le parc locatif. C'est pas possible ça.
Charles-Marie Jotras.
Le marché s'est toujours vengé. Il se venge toujours. législation des loyers, contrôle des loyers, réduction du nombre d'investisseurs, et donc le marché fonctionne avec des contournements, et ce que nous observons aujourd'hui, tous, de façon très claire, c'est une fonte du parc locatif à Paris, par exemple, notamment pour les résidences principales. La protection donc du locataire fait que beaucoup de propriétaires aujourd'hui soit vendent leur logement, qui sort du marché locatif, soit recherchent des baux qui sont dérogatoires pour des étrangers, pour des résidences secondaires dont les locataires ne bénéficient pas des mêmes protections. Ce qui est tout à fait, c'est un effet vertueux qui était recherché, et c'est un effet pervers auquel on arrive.
Thierry Delesalle.
Oui, j'approuve complètement, parce que on a, quand l'ADIL, qui est l'Agence départementale de l'information logement, qui a rendu les chiffres des logements construits depuis 15 ans et des logements, enfin du pourcentage de logements sociaux depuis la loi SRU dont on parlait. Donc en 16 ans, il y a une augmentation de 50% de ces logements sociaux. C'était un peu l'objectif. Aujourd'hui, on est passé de 11 à 20%. Ce qui représente sur 1 200 000 à Paris, logements de résidence principale, 70 000 logements sociaux de plus. Et on a constaté dans ces mêmes chiffres que parallèlement à cette augmentation de ces 70 000, comme on ne construit pas, ils ont été pris sur les logements existants.
Tout juste.
Un peu aussi sur de la transformation, mais surtout sur les logements existants, par de la préemption. Ce qui fait que le parc locatif privé, il baisse, mais également les logements qui peuvent être mutables. Puisque vous savez bien que, de toute façon, quand ils sont en logement social, ils bougent plus.
Non, tu peux.
Donc, du coup, parallèlement, et c'est exactement 70 000 logements en 15 ans qui ont disparu du marché, et ça participe à l'augmentation des prix.
Et qu'on ne retrouvera pas.
Forcément.
Henri Buzy-Cazot, on évoquait tout à l'heure furtivement, mais c'est Marie Cœur de Roy qui va nous en reparler ce jeudi matin sur BFM Business. Y aura-t-il, oui ou non, donc un bonus-malus écologique sur les biens immobiliers? Nicolas Hulot avait indiqué qu'une décision serait prise avant l'été, donc ça va venir peut-être assez vite. L'idée, ce serait d'augmenter la taxe foncière, les droits de mutation, les fameux frais de notaire, justement, pour les logements les plus énergivores. Il serait allégé, en revanche, pour les biens les plus vertueux. Qu'est-ce qu'on sait exactement?
L'éco-conditionnalité, ce mot. Alors, on sait rien. Déjà, on a l'impression que ces ministres ne se parlent pas entre eux. Bon, ça me choque un peu comme citoyen. Qu'est-ce qu'on veut faire à droit de mutation ou de la taxe? C'est une mauvaise idée, clairement, que de vouloir sanctionner ceux qui se portent acquéreurs ou sont propriétaires d'un logement qui est moins vertueux. Il faut bien sûr encourager la rénovation du parc. Les professionnels font tout ce qu'ils peuvent, les professionnels de la gestion, de la transaction. Les Français,
sanctionner au départ.
Non, pas sanctionner au départ, parce que on va avoir la double peine. Ceux qui achètent un logement mal isolé, qui va être en zone suburbaine ou en zone rurale, justement, sont ceux qui ont le moins de moyens. Et ceux-là, on va leur dire, mais les droits de mutation, ils sont pas de 8, ils sont de 12, ou je ne sais quoi. C'est impossible.
Un mot ensuite, parce qu'on va bientôt se dire au revoir. Le prélèvement à la source, on même voulait nous en parler, Sandrine Alonier, justement.
Oui,
prélèvement à la source
craint.
Qui arrive le 1er janvier. Attention justement à un effet pervers auquel on n'avait pas forcément pensé.
Là aussi, on n'a pas encore toute la visibilité, puisqu'on aura plus d'informations en septembre. Donc là aussi, c'est tardif. Et finalement, c'est vrai que je crains un petit ralentissement, parce que les gens vont voir leur fiche de paye mécaniquement diminuer, leur net, ce qui touche sur leur compte chaque mois, diminuer. Résultat, il va y avoir un sentiment d'appauvrissement. On va se dire, mais comment je peux devenir propriétaire et payer finalement 100 ou 200 ou 300 euros de plus dans une grande ville pour rembourser une mensualité? Donc déjà, je pense qu'il va y avoir un effet frein de la demande. Et en parallèle, les banques aujourd'hui, quand elles calculent le taux d'endettement, donc on peut s'endetter à 33% de ses revenus, elles ne prennent pas en compte les impôts, alors que là ils seront pris en compte. En fait, elles prennent les impôts en compte dans le reste à vivre. Donc c'est un autre calcul, mais donc aujourd'hui les banques vont devoir aussi adapter leurs calculs, et ça risque de mettre un peu de temps, 3-4 mois. Donc on va avoir cet effet-là, sans compter que pour tous ceux qui investissent en Pinel, il pourrait y avoir aussi l'envie de décaler un peu son achat. Donc
Un mot, Bernard Cadot, sur ce que vient de dire Sandrine.
On sait que le facteur psychologique est un facteur important sur le marché de l'immobilier et sur la décision des ménages. Donc, in fine, les taux vont rester ce qu'ils sont, etc. Oui, mais s'ils ont le sentiment d'avoir moins de revenus, donc moins la capacité d'emprunter, il y aura, enfin, espérons que ça ne sera pas trop fort, mais il y a un risque d'influence négative sur le marché.
Bilan de l'émission, compte tenu de tout ce qu'on a raconté, évidemment, en matière de fiscalité, de prélèvement à la source, de bonus écologique, de remontée possible des taux, la fin de l'offre immobilière. Allez, chacun un petit tour. Allez-y, Thierry Delesalle.
Oui, peut-être non. Peut-être pas immédiatement, parce que je vous ai parlé de cet effet de rattrapage qui va continuer, mais certainement, oui, c'est tous ces signes négatifs, ça va avoir une influence.
Charles-Marie Jotras.
Non, à Paris, le marché restera tendu de toute façon.
Sandrine Alonier.
Bah, en effet, pas mal de nuages à venir. Il va falloir que les acheteurs passent entre les gouttes pour essayer de s'en sortir.
Henri Buzicazo.
On va sortir un vrai ralentissement sur l'exercice 2018 au bout du compte.
Tout juste. Et Bernard
Allez,
Cadeau.
Moi, je vais finir sur une note optimiste. Il est sans doute encore temps de se mettre en ordre de bataille et d'amener cette fameuse cohérence pour qu'on n'ait pas ces effets-là négatifs sur le marché.
Bernard Cadeau, qui signe un agent immobilier très spécial, ancien patron de Orpi, spécialiste du logement et de l'immobilier, Henri Buzicazo, fidèle des décodeurs de l'écho, tout comme Bernard, également président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, Thierry Delesalle, notaire à Paris, spécialiste de l'immobilier, voilà les notaires très présents également le week-end sur BFM Business, dans le club du droit, Sandrine Alonier, directrice des relations banques de vousfinancer.com, et puis Charles-Marie Jotras, à la tête de Daniel Féo, spécialiste de l'immobilier de luxe. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.